Archéologie scientifique, Père Philippe, 25 mai 83, Rimont.
Nous étions donc dans cette question sur les diverses manières de considérer la grâce et les divisions de la grâce. Nous avions, je crois, terminé l'article 3. Alors, l'article 4, est-ce que la division de la grâce gratuite adoptée par les apôtres est satisfaisante ? C'est la fameuse question ici sur les grâces gratuites. Nous l'avions vu en partie, je la reprends, je crois que c'est bien, étant donné que c'est une question assez délicate. Et je vous avais dit que beaucoup de théologiens aujourd'hui considèrent que ce que nous dit saint Thomas ici n'est plus suffisant face au mouvement charismatique. Alors, c'est important d'essayer de comprendre, comme toujours. Saint Thomas est en théologie scientifique. Le mouvement charismatique n'est pas en théologie scientifique. Vous voyez, c'est comme ceux qui, face à l'écriture, disent l'anthropologie de l'écriture n'est pas l'anthropologie que nous donne Aristote. Aristote est un philosophe. Et l'écriture ne nous donne pas une philosophie immédiatement. Elle implique une certaine philosophie, mais elle n'est pas au niveau philosophique. Toutes les confusions viennent de là, c'est qu'on ne respecte pas les niveaux. Quand on vit un mystère, et on est donc dans l'aspect de la vie. La vie par elle-même n'implique pas d'analyse. Le mouvement charismatique n'est pas dans une attitude réflexive pour savoir quelle différence y a-t-il entre les charismes et la grâce sanctifiante. Le mouvement charismatique vit de la grâce sanctifiante qui rayonne dans les charismes. Et donc tout est présent. C'est bien évident. Quand vous êtes charismatique, ça peut vous arriver à un certain moment, n'est-ce pas ? Vous ne dites pas « changement de vitesse ». Maintenant, je suis dans le charismatique et ma grâce sanctifiante, tais-toi. Pas du tout. Il y a un lien dans la grâce chrétienne. Alors ça, c'est le traité du Christ qu'il faudrait regarder. Et ce serait très intéressant à voir justement dans le traité du Christ. Il faut respecter l'analyse de saint Thomas qui est au niveau de l'analyse théologique, d'une théologie scientifique. Et puis, ce que représente la grâce chrétienne. La grâce chrétienne fait qu'il y a un lien entre la grâce sanctifiante et les charismes, un lien plus fort que dans la justice originelle. C'est assez curieux et c'est assez beau, du reste, comprendre ça, parce que c'est la plénitude de la grâce. Et là, c'est là où il faudrait regarder, si nous avons le temps, on va le faire, parce que ce serait intéressant de voir dans le traité de la grâce la manière dont saint Thomas traite la plénitude de grâce du Christ et les charismes dans le Christ. Et il le fait surtout à propos du don de sagesse, où saint Thomas montre le sermo sapientiae et le don de sagesse. Le don de sagesse fait partie de la grâce sanctifiante, le sermo sapientiae fait partie des grâces charismatiques. Si vous vivez dans la plénitude du don de sagesse, vous avez normalement, je dis bien, vous avez normalement le sermo sapientiae. Il y en aurait des quantités d'exemples. Quand sainte Thérèse décrit ce que représentent les demeures de l'âme, c'est le sermo sapientiae. Quand saint Jean de la Croix écrit, c'est le sermo sapientiae. Ça ne veut pas dire que le caractère et le tempérament de sainte Thérèse n'apparaissent pas. Les charismes ne suppriment pas notre tempérament, la grâce ne supprime jamais notre tempérament. Et donc chacun vit le sermo sapientiae différemment. En raison même de son tempérament. La grâce est beaucoup, beaucoup au-delà du tempérament, tandis que les charismes assument le tempérament. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que les charismes au Texas ne sont pas les mêmes que les charismes à Paris. C'est ça, une nuance particulière, une modalité particulière. Les charismes en Afrique ne sont pas les mêmes qu'en Asie. Parce que le tempérament est pris. Les charismes impliquent tout l'aspect sensible. Alors comme tout l'aspect sensible est pris, tout le tempérament est pris. Tandis que la grâce sanctifiante, elle est directement en liaison avec Dieu. Alors la grâce sanctifiante est au-delà de notre tempérament. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « j'ai un tempérament sanguin, donc je suis un contemplatif. J'ai un tempérament bilieux, donc je suis bon pour le gouvernement. » Je ne peux pas dire ça, c'est absolument impossible, parce que justement le point de vue de la contemplation et des dons sont au-delà du tempérament. Mais les charismes, eux, sont liés au tempérament. Oui, c'est pour ça que c'est moins vrai de dire « j'ai un tempérament sanguin, donc je suis bon pour la contemplation, j'ai un tempérament bilieux, donc je ne suis pas bon pour le gouvernement. » Parce que les dents des petits-fils en sont agacées. C'est vrai, quand un supérieur est bilieux, c'est ennuyeux, il a une crise de foi. Et toute la communauté la ressent. C'est forcé, ça ne peut pas être autrement. À moins vraiment qu'une grâce de Dieu soit extraordinaire et fasse que justement la crise de foi soit complètement dépassée par le charisme et se transforme en une victoire de la grâce. Alors à ce moment-là, c'est merveilleux, mais c'est pas toujours comme ça, parce que les charismes sont liés à notre sensibilité. Vous voyez, je dis ça, c'est parce que il s'agit de regarder avec beaucoup d'attention. Je ne crois pas du tout que ce que dit saint Thomas ici soit périmé. Mais il s'agit de bien comprendre. On est en théologie scientifique. L'apôtre dit dans sa première épître aux Corinthiens, l'un reçoit de l'esprit le don de parler avec sagesse, l'autre le don de parler avec science selon le même esprit. Celui-ci reçoit dans le même esprit la foi, celui-là la grâce de guérir les malades, un autre le don d'opérer des miracles, un autre encore la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre les langues, un autre enfin l'interprétation des discours en langue. Fameux passage de l'épître aux Corinthiens. Et ça on voit très bien, c'est une théologie qui est faite à partir d'un milieu donné, le milieu des Corinthiens. Si saint Paul avait été à Paris, ça n'aurait pas été tout à fait la même chose. S'il avait été sur la péniche de l'Emmanuel, saint Paul aurait écrit l'épître aux Corinthiens un peu différemment, n'est-ce pas, à la péniche de l'Emmanuel. Ça aurait été un peu différent. Il y aurait une nuance particulière. C'est pas tout à fait la même chose. C'est important de comprendre ça quand il s'agit des charismes, hein, tandis que la grâce, ça reste la même chose. Hein, absolument. Que vous soyez nordique, que vous soyez du Midi, ça reste la même chose. La grâce est au-dessus. La grâce gratuitement donnée, nous l'avons dit, a pour but de permettre à celui qui la reçoit de contribuer à ramener un de ses frères à Dieu. C'est de l'ordre apostolique. C'est de l'ordre apostolique. Donc, ça implique le contact sensible à l'égard de l'autre. Nous transmettons ce que nous avons reçu par nos paroles et nos gestes. Et donc, nos paroles et nos gestes sont d'ordre sensible et doivent être assumé par la grâce. Mais un homme ne peut accomplir cette œuvre par une action intérieure. C'est un privilège qui n'appartient qu'à Dieu. Il y a Dieu qui est source de tous les charismes, l'Esprit Saint, qui lui est le même pour tous. C'est le même Esprit Saint en Afrique, en Europe et en Asie. Non, parce qu'il agit de l'intérieur. Alors saint Thomas souligne tout de suite ça. L'Esprit Saint que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne l'a pas vu. Il lui faut instruire son semblable et le persuader par le dehors. Enfin, c'est forcé, il ne peut pas agir autrement. On est bien obligé. Je ne peux pas vous enseigner en gardant le silence. C'est bien ennuyeux. Voilà pourquoi, sous le nom de grâce gratuitement donnée, on comprend ce qui est nécessaire pour instruire les autres des vérités divines qui dépassent la raison. Les conditions requises sont au nombre de trois. C'est toute la petite théologie ici de la communication. Toute la communication. Comment communiquer la grâce, hein? C'est le grand problème, hein, parce que c'est le problème de la pastorale, hein. Donc vous avez là la théologie de la pastorale. Je ne fais pas la pastorale, mais je fais la théologie de la pastorale en disant ça. Et c'est quand même très important, parce que vous devez voir si une pastorale est saine, si ses conditions sont bien requises. Les conditions requises sont au nombre de trois. Premièrement, une connaissance complète de ces vérités divines, afin d'être capable de les enseigner. Première condition, est-ce que vous connaissez parfaitement l'enseignement de l'Église? Si vous ne connaissez pas parfaitement l'enseignement de l'Église, vous êtes incapable de communiquer. Donc il y a une connaissance parfaite, la première. C'est pas l'oublier. Deuxièmement, le moyen de confirmer, de prouver ce qu'on dit, faute de quoi cet enseignement serait sans efficacité. Important, chercher l'efficacité. Vous devez chercher l'efficacité. Saint Thomas dit « Ut possit confirmare vel probare eaque dicit, alias non esse efficace eius doctrina. » Troisièmement, la capacité de communiquer comme il convient ce qu'on a conçu à ses auditeurs. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on ne voit plus que troisièmement. La plupart du temps. Et c'est, au fond, c'est la trilogie classique grecque, to einein, to noein, to legein, la trilogie l'être, la pensée et le dire, que vous retrouvez ici. Alors vous voyez, c'est ça qui est très important à comprendre, parce que si vous avez une théologie toute différente, ou plus exactement, une philosophie toute différente, la philosophie analytique d'aujourd'hui, eh bien ces trois conditions, vous ne pouvez plus les comprendre. Il faut saisir que avant de communiquer quelque chose, il faut le penser. Et je dirais, quand il s'agit du mystère de Dieu, du mystère de foi, avant de le communiquer, il faut le contempler. Il faut non seulement connaître, mais contempler, parce que les vérités divines, on ne les connaît qu'en les contemplant. Puisqu'on se connaturalise à ces vérités en les contemplant. Donc connaître n'est pas suffisant, il faut bien comprendre la première condition, quand on dit premièrement une connaissance complète, primo tomo, sit, sortitus plenitudinem cognitionis divinorum. Alors la plénitude de la connaissance divine implique la contemplation. C'est pas seulement avoir des diplômes. Les diplômes, c'est une condition extrinsèque. Les examens, c'est une condition extrinsèque. Il faut bien vérifier quelque chose. Mais c'est premièrement la plénitude, plenitudinem cognitionis divinorum. Ça, je crois qu'il faut quand même ça, très très fort le comprendre. Hein. Premièrement, la plénitude de la connaissance des choses divines. Secundo, il faut confirmare vel probare eaque dicit. Alors là, nous retrouvons, voyez, les conditions que donne Paul VI dans son exhortation apostolique. Il faut créer un milieu vital. Confirmare, et probare, la charité fraternelle. La charité fraternelle permet la communication de certaines choses. S'il n'y a pas un climat d'une certaine chaleur, on ne pourra rien communiquer. Confirmer, prouver ce qu'on dit, faute de quoi cet enseignement serait sans efficacité, il serait stérile. Vous voyez, les conditions de la fécondité. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Les conditions pour qu'il puisse y avoir éclosion de la foi. Il faut chercher l'efficacité. Et saint Thomas emploie le mot efficace. Il n'emploie pas beaucoup le mot efficace. Hein. Regardez dans les index, hein, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant tout simplement de voir le mot efficace ici. C'est intéressant de voir. Efficace eius doctrina, une doctrina efficace. C'est extraordinaire ça, l'efficacité. Et pour l'efficacité, il prend les deux. Confirmare et vel probare. Confirmer et prouver. Alors, confirmer, c'est le côté plus affectif. Hein. Prouver, c'est pouvoir raisonner, quoi. Montrer que c'est juste et le montrer d'une manière intelligente qui puisse séduire. Troisièmement, la capacité de communiquer comme il convient. Ut eaque concipit, possit convenienter auditoribus proferre. C'est le legere, le proferre. Bon, je crois ça très important, vous voyez. Pour toute pastorale, moi je crois qu'un cours de pastorale doit commencer par ça. Quelles sont les conditions pour communiquer la doctrine? C'est une chose à retenir, ça. On met ça dans les dossiers importants. Parce que c'est intéressant à voir ça. Si nous voulons faire un cours de pastorale ici, dans le sens de saint Thomas, mais c'est là que nous avons la théologie. Vous voyez, ça nous est donné. Ça nous est donné pour que nous comprenions ce que ça doit être. Pour le premier point, trois qualités s'imposent. Alors, vous voyez, ça fait... C'est important à voir, ça. Trois qualités s'imposent. Tout comme lorsqu'il s'agit d'une discipline humaine. Alors ça, c'est très important. Tria sunt necessaria, sicut etiam apparet in magisterio humano. Alors c'est tout le traité du De Magistro qu'il faut comprendre ici. Saint Thomas va résumer ici son De Magistro. Ben, le De Magistro existe, hein. Il n'est pas traduit, c'est pour ça qu'on ne le lit pas beaucoup, mais au fond, le De Magistro, il faudrait le traduire. Après le commentaire de Saint Thomas, le commentaire sur Saint Jean, il faudrait traduire le De Magistro. Parce qu'alors on pourrait faire un petit opuscule sur théologie de la pastorale. Bonsoir. Alors on mettrait le De Magistro ici qui serait important à bien comprendre. D'abord, il faut que celui qui doit enseigner une science soit tout à fait fixé sur les principes de cette science. C'est à quoi répond ici la foi, qui est la certitude touchant ces vérités invisibles, lesquelles forment comme les principes de la doctrine catholique. Donc la première chose qu'on demande à celui qui doit communiquer les vérités de la foi, une certitude de foi, inébranlable dans sa foi. Il met certissima. Ensuite, il importe que ce maître possède parfaitement, c'est le docteur, que ce maître possède parfaitement les principales conclusions de cette science, d'où le nom de parler avec sagesse, celle-ci étant la connaissance des vérités divines. Donc toute la fécondité des principes. Connaître toute la fécondité des principes, connaître le rattachement des conclusions aux principes, comment il y a un lien entre les deux, et montrer ce lien, c'est montrer toute la fécondité des principes. Troisièmement, enfin, il est nécessaire qu'il abonde en exemples et qu'il soit au courant des effets qui servent parfois à exposer les causes. D'où le nom, le don de parler avec science. Celle-ci étant la connaissance des choses humaines, parce que ce qui est invisible en Dieu devient visible pour les créatures. Alors, manifester, illustrer son enseignement par des exemples. C'est évident que, surtout si on parle aux enfants, hein, pour les enfants ont besoin des images, ils ont besoin des petits, le chant des rossignols. Alors il faut que de temps en temps qu'il y ait le chant des rossignols qui manifeste ça. Hein. Alors ça dépend des auditoires, des auditoires à lesquels on parle. Il faut s'adapter, c'est évident. Certains ont besoin de beaucoup d'exemples, d'autres ont besoin de moins d'exemples. Parce que si on donne trop d'exemples, on tombe dans la rhétorique. Alors il n'y a plus d'enseignement et on est uniquement dans la rhétorique. Et alors ça agace les gens qui sont plus. Oui.
Là, ça appartient à la communication, ce que vous dites, souvent nécessaire.
Non, ça appartient à ce que dit saint Thomas, il le donne, vous voyez, comme première chose. Hein. Pour le premier point, il faut la connaissance. Donc il faut illustrer, il faut connaître ça. Vous voyez, ça va servir pour la communication. Mais il le donne, vous voyez, au fond, nous dirions. Hein, pour connaître parfaitement. C'est le De Magistro, ça, que donne simplement. C'est la question, il faut, pour que celui puisse connaître, il faut qu'il ait une plénitude, comme on dit, une plénitude de foi. Une plénitude de connaissance par rapport à ce qu'il doit communiquer. Cette plénitude implique, premièrement, connaissance des principes. Deuxièmement, la connaissance des conclusions dans le soi. Troisièmement, le rayonnement, l'illustration. Alors, je précise, hein, c'est les trois. Pour pouvoir connaître la connaissance parfaite, il faut une connaissance parfaite. Si vous êtes docteur, hein, simplement encore le mot docteur. On est docteur, ça c'est saint Thomas d'Aquin, c'est exactement, c'est ça qui est très beau, c'est ce que disait toujours le Père Mandonné à propos de l'ordre de saint Dominique, ordo doctorum, ordo predicatum, ordo doctorum. Si on veut être un vrai prédicateur, on doit être un docteur. Un vrai prédicateur de la foi doit être un docteur. Vous voyez, et on voit bien ici. Il y a cette connaissance parfaite. Alors, vous voyez, je dirais ici, c'est les analogies. C'est pour ça que ça fait partie de la connaissance. C'est toutes les analogies. Vous voyez, vous pouvez jouer sur les claviers différents. La lumière et la couleur, pour faire comprendre ce que ça représente, les différents aspects. Si vous n'avez pas toutes ces analogies, vous ne pouvez pas comprendre. On comprend très bien, plus une réalité est profonde, plus il faut l'illustrer par des analogies. Ah, vous passez d'un domaine à l'autre domaine. Vous voyez, il fait partie de la vie humaine. Vous montrez la différence entre les domaines. Donc, c'est les analogies, c'est les différentes analogies entre le faire et l'agir, par exemple. Vous voyez, ça nous aide à comprendre. Ça nous aide à comprendre l'efficacité, la fécondité. Quand vous devez montrer certains domaines, vous montrez ce que c'est que l'amour et la différence entre le point de vue de l'œuvre. Oui, oui.
Est-ce qu'on peut dire, si je passe à Dante, de savoir les principes généraux,
non.
Les principes généraux,
mais non. Mais non, parce que vous les connaissez d'une manière obscure, les principes.
C'est théorique.
Non. Ça fait partie du doctrine. Hein. Vous le connaissez parfaitement au point de vue, si vous voulez, de la foi à communiquer, que si vous avez ça, et en philosophie, c'est la même chose. Oui, vous ne pouvez, parce que notre connaissance est analogique. C'est la différence entre une connaissance mathématique et une connaissance analogique. Les grands matheux comprendront ça tout de suite, parce qu'ils diront, mais oui, il faut des analogies. Plus les connaissances sont profondes, plus il faut des analogies. Alors, vous avez ce troisième point, qui est le domaine de toutes les analogies qui amplifient, qui montrent. Ça, c'est la structure. Principe et conclusion. Tandis que l'autre, c'est tout le rayonnement. C'est toute la communication. Vous voyez, la connaissance vraie du jour implique ça. Autrement, il n'y a pas de fécondité. Mais vous êtes sec. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est la logique. Hein. C'est là la différence entre la logique. Au point de vue de la logique, vous prendriez principe et conclusion. Voilà. Pas plus. Au point de vue de la doctrine, ah non. La doctrine est vivante. Là, parce qu'elle est vivante, vous donnez toutes les analogies. Oui, et ça fait partie de la doctrine, hein, ça fait partie du premier point, ça c'est très important. Alors, deuxièmement, pour confirmer l'enseignement, c'est très très beau cet article, hein, il faudrait l'étudier très à fond, parce que c'est toute la structure de ce que doit représenter la communication de la doctrine. Et c'est un point de vue, si vous voulez, de ce que devrait être un lieu où l'on enseigne la doctrine en vue de la communication. Pour confirmer l'enseignement, confirmatio. Pour confirmer l'enseignement donné, il s'agit de vérités qui sont du domaine de la raison. On se sert d'arguments. Mais quand il s'agit de vérités qui dépassent la raison, et nous sont révélés par Dieu. On en trouve la confirmation dans des manifestations qui sont le propre de la puissance divine. Celles-ci sont de deux sortes. Ou bien celui qui annonce la doctrine sacrée accomplit sous forme de miracle des œuvres que Dieu seul peut accomplir. Ça, évidemment, il ne peut pas le faire de lui-même. Si Dieu lui donne certains petits charismes pour guérir, ça aide beaucoup. Que tous ceux qui sont malades s'avancent, on va les guérir. Alors à ce moment-là, on voit très bien, ça aide beaucoup, ça réchauffe l'atmosphère, comme vous le voyez. C'est sûr. Si à la fin des cours de théologie, on pouvait dire, hein, on va guérir tous ceux qui sont malades, c'est merveilleux. Saint Thomas le montre comme une confirmation, hein, comme quelque chose qui est normal. Soit que ces œuvres aboutissent au soulagement des corps, et l'on a la grâce de guérison. Soit qu'elles tendent uniquement à montrer l'intervention de la toute-puissance divine, lorsque par exemple le soleil s'arrête ou s'obscurcit, dans le cours de théologie, n'est-ce pas, et que la mer se divise, et l'on a le pouvoir d'opérer des prodiges. Des prodiges qui sont là pour aider. Ou bien, ce docteur est en mesure de révéler ce qui n'appartient qu'à Dieu de connaître, comme sont les futurs contingents, et on a la prophétie. Ou encore, les secrets des consciences, et là on a le discernement des esprits, ce qui est le plus important. Bon, ce qui est évident, discernement des esprits. Discerner ce qui est dans la vérité, ce qui n'est pas dans la vérité. Discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient du démon. Vous voyez, donc, toutes les grâces qui sont là pour confirmer. Évidemment, ça ne fait pas partie des méthodes. Ça, c'est là où on voit très bien comment l'apôtre doit être donné à la toute-puissance de Dieu. Et compter sur la toute-puissance de Dieu. Et là, l'aspect charismatique d'aujourd'hui joue beaucoup. On voit très bien ça. Enfin, pour s'exprimer, il faut d'abord parler l'idiome qui sera compris. Et c'est le don des langues. Il est nécessaire, en outre, de saisir le sens des paroles qui seront dites, et c'est l'interprétation des discours. On sent très bien ça. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il faut tout de suite comprendre l'interprétation des discours et donc pouvoir tout de suite dire « Ah mais oui, ce que vous dites, c'est pas étonnant. Vous êtes sous l'influence marxiste. » Ah, ce que vous dites, ça, c'est pas étonnant. Mais ça, c'est l'influence de l'idéalisme. Alors, vous voyez, c'est le discernement. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Ce discernement, il est là. C'est le discernement des esprits, de voir d'où ça vient quand vous avez une objection. C'est arriver à discerner pour pouvoir communiquer. Si vous ne faites pas ce discernement, vous ne communiquerez pas, vous serez devant des gens qui auront des murs. Il y aura un mur, ça resettera. Et la balle rebondira, elle reviendra vers vous, elle ne passera pas. Il faut que ça puisse passer. Alors pour que ça puisse passer, il faut enlever les obstacles. Et enlever les obstacles en discernant d'où viennent cela, d'où ça vient ces résistances. Pourquoi y a-t-il cette résistance? Donc, voyez, là, je crois qu'il faudrait que chacun d'entre nous, hein, cet article, nous puissions l'analyser fortement et que ça fasse peut-être la petite charte. Vous voyez, la charte de nos études. Hein. Ce serait très beau de bien découvrir ça comme charte de nos études et bien comprendre les trois, les points différents qui sont. Alors, vous voyez, tous ne sont pas ici en forme. Avant tout, donc c'est le premier point, faire de vous des docteurs, en faisant comprendre que lorsque vous aurez à le confirmer, le Saint-Esprit sera là pour vous aider, et que vous devrez le communiquer avec la plus grande simplicité, la plus grande clarté, pour écarter tous les obstacles, le don des langues et l'interprétation des discours. Alors maintenant, voyons les objections, si vous voulez, pour bien comprendre la totalité de cet article. Tout est ordonné à ça, mettre mise en ordre de tous les charismes dont parle Saint Paul. Et mettre tous ces charismes au service de la communication de la doctrine. Hein, n'oublions pas la finalité, la communication de la doctrine. Tous les charismes sont faits pour propager la foi, afin que par lui, tous crûent, dans le prologue de Saint Jean, à propos de Jean-Baptiste. Première objection. Tout don gratuit que Dieu nous fait peut être appelé grâce donnée gratuitement. Or, ces dons qui sont accordés gratuitement, sans nous rendre pour cela agréable à Dieu, tant dans l'ordre des biens de l'âme que dans celui des biens du corps, sont infinis. Alors, réponse. L'apôtre dit dans sa première épître aux Corinthiens, la démonstration de grâce gratuitement donnée, nous l'avons déjà exposée, ne s'étend pas à tous les bienfaits de Dieu, mais uniquement à ceux qui dépassent les proportions de notre nature. Qu'un simple pécheur, par exemple, soit rempli de ces paroles de l'esprit de sagesse et de science et autres merveilles semblables, voilà des grâces gratuites. Le cas de Marthe, par exemple. Quand on voyait quelqu'un qui n'avait pas reçu beaucoup d'instructions et qui pourtant avait un tel discernement à l'égard de la doctrine. Alors on voit très bien, on est tout de suite en face de quelqu'un, et c'est vrai, ça existe d'une manière étonnante. C'est ces gens qui sont simples, qui n'ont pas reçu d'instructions et qui ont un discernement étonnant. Alors là, on est en présence d'un discernement qui vient directement de l'Esprit Saint. Deuxièmement, objection. La grâce donnée gratuitement s'oppose à la grâce qui nous rend agréable à Dieu. Mais la foi appartient à cet ordre de grâce qui nous rend agréable à Dieu, puisqu'il nous justifie, puisqu'elle nous justifie, d'après le texte de l'Épître aux Romains, justifié par la foi. C'est donc à tort que la foi soit placée parmi les grâces données gratuitement. Facile à comprendre. On peut employer la foi de deux manières différentes. La foi qui est comptée ici parmi les grâces gratuitement données n'est pas simplement celle qui justifie l'homme en lui-même, mais celle qui, arrivée à un degré suréminent de certitude, permet d'instruire les autres. Pour ceux qui est de l'espérance et de la charité, elles appartiennent à la faculté appétitive et ainsi se contentent d'ordonner l'homme à Dieu. Alors ça, c'est très très joli, vous voyez. Vous n'avez pas une charité charismatique, tandis que vous avez une foi charismatique. Pourquoi ? J'ai une charité surabondante, elle est charismatique, ma charité. Tandis qu'il y a une foi charismatique, la surabondance de la foi, parce que l'intelligence est de l'ordre de la manifestation, mais pas l'amour. Et c'est pour ça que c'est de l'ordre de la manifestation qu'il y ait, du côté de la foi, un charisme. Alors, troisième objection, opérer des guérisons et parler plusieurs langues sont des miracles. De plus, l'interprétation des discours spirituels appartient à la sagesse ou à la science. À ces jeunes gens, lisons-nous au livre de Daniel, Dieu donna la science et l'habileté dans toute la littérature et c'est pour ça que c'est de l'ordre de la manifestation qu'il y ait, du côté de la foi, un charisme. Alors, troisième objection, opérer des guérisons et parler plusieurs langues sont des miracles. De plus, l'interprétation des discours spirituels appartient à la sagesse ou à la science. À ces jeunes gens, lisons-nous au livre de Daniel, Dieu donna la science et l'habileté dans toute la littérature et en toute sagesse. C'est donc sans raison que le don de guérison et le don des langues se trouvent opposés au pouvoir d'opérer des miracles, et de même l'interprétation des discours au don de parler avec sagesse et avec science. Réponse de saint Thomas. Vous voyez, on voit très bien, les objections consistent à montrer que les divisions qu'on donne sont fausses. Que ça peut la parler comme ça, tout simplement. Quoi. La surabondance de son cœur. Il aurait pu en ajouter d'autres. Pas tout. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, du reste. C'est exactement ce qu'on dit, mais il aurait pu en ajouter d'autres. Est-ce que saint Paul est inspiré ou pas ? C'est la question. Et bien, saint Thomas prend ça avec gravité et sérieux. Alors qu'on dirait aujourd'hui, mais non, pas du tout, il en a vécu très bien. C'est son tempérament. Alors il est comme ça, il dit, ah non, saint Thomas étudie ça avec précision. Troisièmement, dans la réponse, si la grâce des guérisons est distinguée du pouvoir général de faire des miracles, c'est qu'elle a une efficacité spéciale pour conduire à la foi. Alors c'est ça qui est intéressant. La diversité des charismes se prend de l'efficacité spéciale pour conduire à la foi. C'est ça le caractère spécifique qui distingue un charisme d'un autre. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Abet rationem specialem inducendi ad fidem. Chaque fois que vous avez une raison spéciale de conduire à la foi, vous avez un charisme particulier. Et c'est là où vous voyez la diversité des charismes. Inducendi ad fidem. Donc ce qui conduit à la foi, ce qui oriente vers la foi. Le bienfait du retour à la santé accordé à un homme en vertu de la foi le rend bien plus disposé à l'embrasser. Ça, c'est sûr. Vous avez guéri un malade de son infirmité, ben, il est plus disposé, il est de bonne humeur, si vous voulez. Alors, il est plus disposé à embrasser la foi. Pareillement, le don des langues et l'interprétation des discours ont à ce sujet une force de persuasion particulière. C'est la raison qui leur fait donner une place à part parmi les grâces gratuites. Chaque fois qu'on dirait aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un impact particulier qui peut conduire à la foi, vous avez donc là un charisme spécial. Vous voyez, c'est l'universalité de la doctrine et le caractère particulier des charismes. Ça, il faut le saisir, c'est pas. On est dans le sensible. On est dans Induchandi et Fidem. Mais on est dans une voie sensible. Eh bien, les voies sensibles sont multiples. Parce que ça doit saisir l'homme dans sa complexité. Et saisir l'homme dans sa complexité, c'est saisir à la fois le corps de l'homme, sa sensibilité, sa santé, et puis en même temps sa parole, en même temps son imagination, en même temps sa façon de penser. Oui.
Et quelle est la différence entre un charisme et une attitude humaine?
Ah, parce que l'attitude humaine, il vient de dire, hein, réponse à l'objection première. L'objection, l'attitude humaine reste dans la horizontale au même niveau. Oui, l'attitude humaine. Quoi ?
C'est dans les effets qu'on
trouve. Ah oui, c'est dans les effets. C'est dans les effets. Si ça conduit vraiment à la foi. Un prédicateur qui serait génial au niveau rhétorique, qui a un don extraordinaire de parler, ça existe. Bon, vous verrez si c'est charismatique ou pas charismatique, en fonction des effets. S'il y a conversion des cœurs. Si les gens sont convertis, alors là, vous pouvez dire c'est charismatique. Si les gens ne sont pas convertis, ça va demander « Ah, oh, comme il parle bien, ah, oh, c'est merveilleux, oh, comme c'est agréable de l'entendre, c'est merveilleux, ça nous fait du bien, c'est très bien, mais oui, ça nous fait du bien, ça ne convertit rien du tout. » C'est le miaulement du chat auprès du feu. Mais alors, en fait, le discernement entre le miaulement du chat auprès du feu, c'est très très bien, ça peut aider. Vous savez bien, le père Janvier, quand il parlait, hein, il avait en première loge, en face de lui, à la chaire à Notre-Dame, tous les acteurs de Paris, tous les grands acteurs étaient là pour voir comment il prononçait. Alors, c'était pas charismatique, c'était simplement là. C'était tout simplement parce qu'on aimait l'entendre, étant donné qu'on considérait qu'il était, au point de vue art oratoire, le premier, plus grand que ceux qui étaient. Alors il venait là, il venait s'éduquer. Il venait pour et entendre une leçon. Bon, c'était très bien, c'était une manière de s'approcher d'eux, mais c'était pas charismatique, ça.
Est-ce que ça veut dire si ça convertit personne,
Oui.
Est-ce que c'est parce que ce n'est pas charismatique ou bien parce que ce n'est pas l'Esprit Saint?
Ben, c'est, les charismatiques, c'est l'Esprit Saint. Charismatique, c'est l'Esprit Saint.
Oui, mais ça peut très bien de l'Esprit Saint sans être charismatique.
C'est justement, on parle ici, la communication de la foi, quand elle est efficace, vient de l'Esprit Saint.
Ça peut ne pas être charismatique.
Ça peut très bien ne pas être charismatique, mais là, je ne convertis pas. C'est une incohérence pour vous, ça vous sanctifie. Vous faites un sermon, vous avez beaucoup de peine à le faire, vous ne convertissez personne, mais ça vous a sanctifié. Et vous l'avez fait par devoir, mais ça n'a converti personne. C'est inefficacité complète. Mais ça vous avez fait ça par devoir, donc ça vous a sanctifié. Ça, c'est la grâce sanctifiante. Il n'y a eu aucun charisme. Rien du tout. Vous avez emballé les gens. Les gens sont emballés. Oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais converti personne. C'est pas charismatique, c'était vos dons naturels. Mais très bien. Il ne faut pas les supprimer, ces dons naturels. Mais il faut demander au Seigneur de s'en servir d'une façon charismatique. Pour que ce soit efficace. Oui, vous avez les trois positions. Hein. La position, vous avez eu beaucoup de peine à faire ce serment. Ah, c'était extrêmement difficile. Pendant 8 jours, le préparer, ça m'était très très dur. J'en ai passé des nuits entières à travailler. Bon, très très bien. Vous vous êtes sanctifié parce que vous l'avez fait à vos devoirs. Mais inefficace. Tout le monde a dormi pendant ce temps-là. D'accord ? Inefficace. Tout le monde a dormi. D'accord ? Bon, au contraire. Merveilleux, tout le monde est écouté ça, comme il est merveilleux ce père, c'est merveilleux, il est jeune, il est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est emballant, c'est merveilleux. Personne n'est converti. Inefficace au point de vue de la foi, très efficace au point de vue de la gloire humaine, mais inefficace au point de vue de la foi. Et puis alors au contraire, l'autre sermon, vous l'avez beaucoup travaillé, vous avez prié, et le Seigneur vous aide. Et vous sentez bien, le Seigneur nous aide. Non, le père Dôme, c'était toujours ce cas. Il avait prêché au Carmel de Compiègne, au Carmel des Martyrs. Hein. Et il se souvenait très bien de ce sermon. Tout d'un coup, il a eu un trou. Ça peut arriver, il était très fatigué. Il a eu un trou. Il savait plus. Alors il s'est mis à crier très fort. Mais il savait plus, pour réveiller les gens et pour avoir la main. Il s'est mis à crier très fort. Il savait absolument pas ce qu'il avait dit. 10 ans après, il revient dans le même Carmel pour prêcher encore ce sermon. Et à la fin du sermon, il lui dit, écoutez, il y a une religieuse qui voudrait beaucoup vous voir. Il dit, bon, très bien. Et alors cette religieuse lui dit, mon père, vous ne me connaissez pas, mais il y a 10 ans, j'ai assisté à votre sermon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien, mais il s'est passé cette chose extraordinaire. À un moment donné, vous avez crié très fort. Attendez, oui, je me souviens très bien. J'ai crié très fort. Eh bien, je ne sais pas ce que ça produit, mais ça m'a complètement bouleversé. Et l'Esprit Saint m'a converti à ce moment-là, et j'ai demandé d'entrer au Carmel. Par exemple, c'était toujours cet exemple de ce Carmel de Compiègne où il avait crié très fort parce qu'il y avait eu un trou. Il savait absolument plus du tout ce qu'il avait dit. Mais la grâce de Dieu avait passé. C'était pour elle, sans doute. Il y avait peut-être d'autres aussi, il n'a pas su. Mais là, il l'avait su. De temps en temps, Dieu permet de confirmer comme ça. Alors on sait très bien, Dieu s'est servi. Ça arrive constamment, ça. L'instrument ne sait pas toujours. Hein. Quand Dieu se sert de vous, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas toujours, même charismatiquement, vous ne le savez pas toujours. Et quelqu'un dit, oui, vous avez dit ça, telle parole, ça m'a bouleversé. Très bien. Et 10 ans après, vous voyez, 15 ans après, au ciel, on verra ça. Et puis on verra au ciel aussi toute la mousse qu'il y avait, qui n'était pas charismatique du tout. Alors la mousse, elle est tombée, elle est dégringolée, elle était dans le temps. Tandis que le charisme, ça demeure éternellement. C'est la différence entre ce qui vient de l'homme, les dons, et puis, les dons humains que Dieu a donnés, qu'on ne doit pas mépriser, qu'on ne doit pas mépriser du tout. Si Dieu nous a donné une bonne intelligence, servons-nous de cette bonne intelligence, c'est très bien. Mais supplions Dieu et l'Esprit Saint de s'en servir. Que ce ne soit pas une œuvre humaine, que ce soit une œuvre divine, dépassée par la grâce. Alors, dernière objection, la sagesse et la science sont parmi les dons du Saint-Esprit, mais aussi, au même titre, l'intelligence et le conseil, la piété, la force et la crainte de Dieu, comme nous l'avons dit. Pourquoi ces dernières ne sont-ils pas aussi comptées parmi les grâces données gratuitement? C'est très très joli ça. Il devrait y avoir une répétition, vous voyez, les 7 dons du Saint-Esprit et les 7 charismes pour la communication. Eh bien non. Alors, réponse de saint Thomas, ce n'est pas au même titre que la sagesse et la science sont rangées parmi les grâces gratuitement données et parmi les dons du Saint-Esprit. Dans ce dernier cas, elles rendent l'âme aussi souple qu'il le faut pour suivre les inspirations de l'Esprit-Saint en tout ce qui concerne la sagesse et la science, conformément à la définition déjà donnée des dons du Saint-Esprit. Si par ailleurs, elles figurent parmi les grâces gratuites, c'est en tant qu'elle comporte une certaine abondance de science et de sagesse qui permet à l'homme non seulement de posséder pour lui-même ses justes notions sur les choses divines, mais encore d'en instruire les autres et de réfuter les contradicteurs. Saint Augustin le dit dans son traité de la Trinité, autre chose est de savoir simplement ce que l'on doit croire pour obtenir la vie éternelle, et autre chose de savoir par ses lumières venir en aide aux âmes pieuses et de les défendre contre les impies. Donc c'est la surabondance, une surabondance charismatique et de l'ordre sensible qui permet la communication aux autres. Oui, je crois que ça c'est bien. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, comme article, c'est très très beau, hein, c'est un article d'organisation. C'est génial, hein, de voir comment on fait la théologie de l'Épître aux Corinthiens. Avec une anthropologie derrière. Parce qu'elle est visible, cette anthropologie. C'est un des endroits où on voit que l'anthropologie de saint Thomas existe, hein. Il y a toute une vision du De Magistro. Alors le De Magistro, c'est le moment où on voit le mieux l'anthropologie. Aristote disait, hein, que c'était à propos de la fécondité et la manière dont les animaux se transmettaient, la procréation, qu'on voyait mieux l'espèce de l'animal. Il dit ça dans les parties des animaux. Mais c'est très juste, c'est très intéressant ça. Parce que c'est une des choses qui reste vraie, même au point de vue biologique. On voit bien ça. Eh bien, je crois qu'au point de vue anthropologie humaine, c'est au moment de la communication de la vérité qu'on comprend le mieux ce que c'est que la personne humaine. Parce que c'est la personne dans la fécondité. Transmettre la vérité, c'est la fécondité. Alors, c'est saisir cette transmission dans la fécondité de la vérité humaine que vous saisissez le mieux l'anthropologie. Oui. Alors ça, c'est là un article avec le des magistraux où on saisirait le mieux l'anthropologie de saint Thomas, vous voyez. Et là, on voit bien qu'une théologie de la communication implique toute une anthropologie. Et saint Thomas, dans son anthropologie, rejoint et montre adéquatement que ce que saint Paul dit. Saint Paul est sémite, saint Paul est pharisien converti, c'est fameux, il n'y en a pas tellement, pharisien converti, intelligent, ayant puisé à toute la philosophie, à toute la sagesse grecque. Saint Paul nous donne cette vision, et saint Thomas, lui, pas tout à fait le même génie, rejoint saint Paul. C'est extraordinaire. Ça, c'est beau, c'est un des lieux très importants, vous voyez, à saisir. Quand on dit l'opposition entre l'anthropologie de saint Thomas et l'anthropologie sémite, alors prenez ça et voyez comment un saint Thomas est à l'aise en face de ce que nous dit saint Paul. Et c'est la fécondité. C'est toujours au moment de la fécondité que vous saisissez parfaitement ce que c'est que le vivant. Le vivant, seul le vivant parfait peut être fécond. Et c'est justement dans cette perfection que vous le saisissez parfaitement. Alors, perfection dans l'ordre biologique, perfection dans l'ordre de l'esprit, transmettre la communion, et perfection dans l'ordre divin. Vous voyez les trois degrés de fécondité. Hein, vous voyez bien les trois fécondités. La fécondité biologique, la fécondité humaine, la fécondité divine. Et vous avez les trois. Vous avez les trois sagesses. Dans l'ordre de la fécondité, vous avez la communication de la vie humaine, la communication de la vie, tout simplement de la vie végétative, la communication de l'esprit, l'enseignement des magistraux, et la communication au plan spirituel, au plan divin.